Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
L'actualité d'Haïti et des Amériques jusqu'à 13h30, temps universel, et un nouveau rendez-vous qui débute aujourd'hui. Vous saurez tout sur la campagne électorale aux États-Unis, tout sur le duel entre la démocrate Kamala Harris et son rival Donald Trump. Nous serons en direct chaque mardi avec notre correspondant à Washington. Au sommaire également des révélations sur le trafic de drogue entre le Brésil et l'Europe avec une plaque tournante de plus en plus utilisée, c'est l'Afrique. Entretien avec un spécialiste de la question dans quelques minutes. Et puis l'actualité des Outre-mer. Vous nous parlerez tout à l'heure des problèmes d'eau en Guadeloupe, Benoît Ferrand.
Oui, dernier épisode en date, des difficultés dans le remplacement de filtres à charbon actif. Nous entendrons tout à l'heure la colère d'un membre de la commission de surveillance du syndicat unique de l'eau.
A tout à l'heure.
RFI Midi.
Et on va d'abord faire le point sur l'actualité internationale avec vous, Marion Kazanov, et à la une, ce nouveau carnage en Ukraine.
Oui, au moins 41 morts et 180 blessés aujourd'hui dans une frappe russe à Poltava, ville du nord-est, près de Kharkiv. On retrouve notre correspondante en Ukraine, Emmanuel Chaz. Emmanuel, c'est le président Volodymyr Zelensky qui l'a annoncé tout à l'heure dans un message vidéo sur Telegram. Emmanuel Chaz, notre correspondante à Kiev, que l'on va essayer de retrouver dans quelques instants. Pour l'heure, en RDC, après une tentative d'évasion dans la prison de Makala à Kinshasa, le dernier bilan fait état de 129 morts, bilan donné ce matin par le ministre de l'Intérieur, avec 24 détenus tués par balles après sommation, précise-t-il. Les autres décès seraient dus à des étouffements et le ministre dénombre également de nombreux cas de viol de femmes détenues. Une tragédie et une violation des droits humains selon l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Rostin Manketan Kouata est son directeur exécutif.
Non, c'est très choquant. Franchement, c'est très choquant. On ne peut pas assister à des carnages pareils dans un état de droit. La prison devait être le milieu le plus sécurisé, mais malheureusement, là, nous assistons à un carnage en pleine ville de Kinshasa. C'est choquant, il faut que les auteurs répondent de leurs actes. Jusque-là, la version officielle que nous avons, c'est qu'on parle d'une tentative d'évasion. Il faut qu'on nous dise, est-ce que l'initiative est partie directement des détenus qui sont à la prison centrale de Makala, ou s'il y a eu des complicités extérieures? Ça, on doit nous éclairer. Comment des personnes qui s'organisent pour s'évader doivent se livrer à des viols de femmes, à des incendies de bâtiments administratifs dont le greffe? Voilà des interrogations. Et il faut que les autorités nous éclairent. Et pour cela, comme nous le disons, il faut une enquête mixte à laquelle doivent prendre part plusieurs acteurs, dont les défenseurs des droits humains, pour que toute la lumière soit faite sur cette tentative d'évasion qui a débouché sur un carnage, sur un massacre de détenus.
Le directeur exécutif de l'ONG, La Voix des Sans-Voix. Et on retrouve en Ukraine notre correspondante Emmanuel Chaz. Emmanuel, le président Volodymyr Zelensky a déploré tout à l'heure une frappe russe à Poltava qui a fait au moins 41 morts et 180 blessés.
Oui, tout à fait, un bilan très lourd dans ces frappes. Donc ce matin, cette fois sur la ville de Poltava. Poltava n'est pas sur la ligne de front, hein, c'est à l'est de Kiev, à environ 140 km, mais c'est à portée des missiles de longue portée russes. On y trouve énormément de personnes déplacées des régions de l'Est, notamment une population de 300 000 personnes environ. Alors, ont été touchés, d'après la présidence ukrainienne, un centre d'éducation dont il se dit, sans confirmation ici, qu'il s'agirait d'un centre d'éducation militaire. Un hôpital a également été touché. Le ministre de l'Intérieur, Ihor Klimenko, rapporte que les frappes sont intervenues très peu de temps après que l'alerte aérienne ait retenti dans la région, c'est-à-dire que les gens n'ont tout simplement pas eu le temps d'atteindre les abris prévus en cas de menace aérienne. L'incendie, nous dit-on, a été maîtrisé, mais les dégâts matériels et humains sont considérables. Le gouverneur de la région a déjà déclaré 3 jours de deuil à Poltava à partir de demain, et signe de la gravité de ces frappes, hein, ces frappes avec 2 missiles a priori de type Iskander, signe de la gravité de ces frappes. Ce gouverneur a aussi appelé ceux qu'ils peuvent parmi la population à donner leur sang pour les nombreux blessés, donc 140 à l'heure qu'il est, alors que les recherches pour d'éventuels survivants continuent sur le site.
Emmanuel Chaz en direct de Kiev pour RFI.
Dans l'actualité également au Liban, Riyad Salamé a été arrêté à Beyrouth.
L'ex-gouverneur de la BDL, la banque du Liban qu'il a dirigée pendant 30 ans, est soupçonné de corruption à l'étranger et dans son pays. Un procureur libanais l'aurait auditionné pendant plusieurs heures au sujet de détournement de fonds de la BDL dépassant les 40 millions de dollars avant de décider de son arrestation.
Au Venezuela maintenant, une annonce plutôt étonnante au beau milieu d'une crise politique.
La fête de Noël ne sera plus célébrée en décembre dans le pays, mais le 1er octobre, le président Nicolas Maduro a pris cette décision soudainement, alors que sa réélection, il y a quelques semaines, reste vivement contestée. Harim Lipold.
Nicolas Maduro a annoncé la nouvelle hier lors de son émission hebdomadaire sur la chaîne Globovision. Cela sent déjà Noël et c'est pourquoi cette année, en hommage au peuple combatif, je vais décréter Noël le 1er octobre, a déclaré le président vénézuélien sous les applaudissements du public. Dans les semaines qui précèdent les festivités de fin d'année, le gouvernement chaviste multiplie traditionnellement la distribution des aides et des aliments en faveur des plus démunis. Ce n'est pas la première fois que le président vénézuélien décide d'avancer Noël en octobre. Il l'a déjà fait à deux reprises, en 2020 et en 2021. Selon le journal El Nacional, l'objectif était de faire oublier la crise économique et sanitaire qui frappait alors le pays de plein fouet. Cette année encore, la décision ressemble fortement à manœuvre pour détourner l'attention de la crise politique provoquée par la réélection de Nicolas Maduro. Elle est contestée par l'opposition qui revendique la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia. Ce dernier est désormais visé par un mandat d'arrêt, une décision prise hier lundi, quelques heures seulement avant l'annonce surprise que Noël sera célébré dès le 1er octobre.
Précision signée Harim Lipold.
Et on reparlera du Venezuela dans le journal d'Haïti et des Amériques dans quelques minutes et de cette polémique qui n'en finit pas après la saisie par les États-Unis d'un avion de Nicolas Maduro.
Dans la Manche, un nouveau naufrage fait une dizaine de morts. Une embarcation avec à son bord une soixantaine de migrants s'est disloquée au large de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Ils tentaient de rejoindre le Royaume-Uni.
En France, le casse-tête continue pour Emmanuel Macron à la recherche d'un Premier ministre.
Le président teste toujours des hypothèses, mais chaque nom évoqué provoque des mécontentements à droite, à gauche ou les deux. Le RN, l'extrême droite, promet de censurer les derniers prétendants évoqués, à savoir Thierry Baudet, Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Emmanuel Macron poursuit ses échanges aujourd'hui, près de deux mois après les élections législatives anticipées et cette semaine après la démission de son gouvernement.
Toujours en France, la résurrection d'une entreprise emblématique.
Duralex, connu depuis des décennies pour sa vaisselle en verre très solide que l'on retrouve partout dans les cantines d'école, peut-être aussi ici à RFI, on n'a pas vérifié. Elle a traversé en tout cas cette entreprise six redressements judiciaires. La justice a finalement validé la reprise de l'entreprise par ses salariés sous forme de coopérative, de SCOP. Duralex faisait sa rentrée hier. Justine Fontaine y était, près d'Orléans, dans le centre de la France.
La verrerie Duralex tourne au ralenti, mais c'est pour une bonne raison.
Merci à tous d'être venus.
La toute nouvelle coopérative fait sa rentrée et les salariés ont le sourire, à commencer par le maître de cérémonie du jour.
Je suis François Marciano, je suis d'abord salarié associé de la SCOP et j'ai la fonction de directeur général. C'est une nouvelle naissance. C'est plus une personne avec un patron, même si chacun a sa fonction, c'est une équipe.
Les deux tiers des salariés ont décidé de devenir associés de la coopérative, comme Ifeani Ezenwa, un ouvrier nigérian de l'usine.
Travailler pour les gens qui n'avaient pas souci pour l'entreprise, ça nous a fait énormément de problèmes. Mais là, maintenant, on travaille pour nous-mêmes.
L'entreprise a enregistré de mauvais résultats l'an dernier, notamment à cause de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. Mais les salariés ont été soutenus financièrement dans leur projet par la métropole d'Orléans que préside Serge Gouard.
Dans certains cas, il y a des boîtes qui ferment. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Mais je refuse la fatalité.
C'est un grand bonheur parce que vous savez, il y a trois mois, c'était loin d'être gagné. Hein.
Duralex espère augmenter son chiffre d'affaires de près de 30% d'ici 5 ans. Justine Fontaine, La Chapelle Saint-Mémin, RFI.
RFI, bientôt 15h10 à Paris, 13h10 en temps universel. C'est à vous, Anne Cantner.
Marion Cazanov, nos auditeurs vous retrouvent dans deux heures pour un prochain journal. Et pour l'heure, donc, RFI Midi se poursuit. Suite et fin sur le continent américain.
USA 2024.
When we fight, we win.
La présidentielle américaine sur RFI.
We will make America great again.
Voilà, vous avez reconnu les voix, sans doute, les deux candidats à la présidentielle du 5 novembre aux États-Unis. Les Américains départageront ce jour-là Kamala Harris et Donald Trump. Ce sera dans 2 mois et nous vous proposons un nouveau rendez-vous chaque mardi à cette heure-ci en direct avec notre correspondant à Washington. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne depuis hier parce que le Labor Day, la fête du travail américaine qui était célébrée hier, marque traditionnellement le début des choses très sérieuses pour les candidats.
Oui, et les démocrates ont mis le paquet pour convaincre les électeurs des États clés où le vote ouvrier est important, les États du Midwest, comme on dit. Par exemple, Kamala Harris a fait 2 déplacements hier. Le premier à Détroit, dans le Michigan, la capitale de l'industrie automobile. Ces États-là, il faut qu'elle les gagne si elle veut être élue. Et pour cela, il faut qu'elle s'adresse à un public qui n'est pas forcément automatiquement convaincu par son profil de juriste californienne. Kamala Harris, en ce jour de fête du travail, s'est donc adressée à des syndicalistes pour leur dire qu'elle partage leur valeurs depuis quand ? Depuis toujours.
Beaucoup d'entre vous savent que mes parents se sont rencontrés pendant qu'ils militaient dans le mouvement pour les droits civiques. Donc, quand j'étais petite, ma mère m'emmenait dans des réunions et dans des manifestations dans ma poussette. Et très jeune, j'ai appris que quand les gens sont ensemble, quand nous parlons ensemble, sachant que la grande majorité d'entre nous, nous avons tellement plus qui nous réunit que ce qui nous sépare, quand nous parlons ensemble, nous pouvons faire des changements extraordinaires.
Ça, c'était la première étape. Et la seconde, Guillaume, c'était dans un autre état clé, la Pennsylvanie.
Oui, à Pittsburgh, dans l'ouest de l'État, une région très industrielle. Là aussi, elle a parlé à des syndicalistes, avec un petit peu le même discours d'ailleurs, elle se répète parfois, sauf qu'elle n'était pas seule. Joe Biden a mis fin à ses vacances pour lui apporter son soutien, comme il l'avait promis lors de la convention démocrate à Chicago, et pour convaincre les habitants de ce qui est après tout son État natal.
Are you ready to fight?
Êtes-vous prêt pour la bataille?
Are you ready to win?
Êtes-vous prêt à gagner?
Are you ready to elect Kamala Harris, our next president of the United States?
Êtes-vous prêt à élire Kamala Harris comme la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique. Et au passage, êtes-vous prêt à faire de Donald Trump à nouveau un perdant ?
On sent que Joe Biden a envie d'en découdre, même s'il y a des doutes sur ses capacités. Ce qui lui reste d'énergie, eh bien, il va le mettre au service de Kamala Harris.
Et Donald Trump, pendant ce temps ?
Eh bien, il était assez discret en ce Labor Day. Pas de déplacement de terrain hier. Non, Donald Trump a laissé parler les autres, notamment au sujet d'une polémique qui dure depuis presque une semaine maintenant. Il y a quelques jours, il était au cimetière national d'Arlington, en Virginie, tout près de Washington, de l'autre côté du fleuve Potomac, avec les familles de soldats tués il y a 3 ans au moment du retrait chaotique d'Afghanistan au cours d'un attentat à l'aéroport de Kaboul. Son équipe de campagne a fait des images de la cérémonie dans un lieu où il n'y a en principe pas de caméra, l'administration du cimetière s'en est émue et cela a déplu à Kamala Harris qui, sur les réseaux sociaux, a dénoncé un coup politique. La campagne Trump a donné la parole à ses familles, comme Mark Schmitz, père d'un des soldats tués, et il s'adresse directement à la vice-présidente et vous allez l'entendre sans concession.
Pourquoi nous voulions que Trump soit là ? Ce n'était pas pour l'aider dans sa campagne politique. Nous voulions un dirigeant. Cela explique pourquoi vous et Joe n'avez pas reçu d'appel. Imaginez une seconde que votre enfant soit tué et il y a un président des États-Unis qui veut vous prendre sous son aile et vous écouter. C'est ce que nous avons trouvé avec le président Trump, certainement pas avec vous et certainement pas avec Joe Biden.
Ouais, c'est assez représentatif de la manière dont l'électorat est parfois et même souvent fracturé dans cette campagne et ce n'est certainement pas la fin des polémiques.
Eh ben, on suivra tout ça avec vous, Guillaume Nodin, dans ce nouveau rendez-vous, donc une plongée dans la campagne aux États-Unis tous les mardis dans ce journal d'Haïti et des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
On va maintenant jeter un œil à la presse du continent. Et d'ailleurs, vous allez rester avec nous durant tout le prochain quart d'heure. Vincent Souriau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Les journaux parlent beaucoup aujourd'hui de cette saisie qui embarrasse le Venezuela.
Les États-Unis ont mis la main sur un avion considéré comme la monture de Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Un Falcon 900EX, un appareil de chez Dassault, de fabrication française, qui peut accueillir entre 10 et 15 passagers. Or, qui dit aviation dit maintenance. Et lorsqu'il a fallu le bricoler, ce Falcon, les Vénézuéliens l'ont envoyé renvoyer en République dominicaine.
Une mauvaise idée.
Pas terrible, effectivement. Le ministère américain de la Justice, du coup, a demandé sa saisie. Saint-Domingue a coopéré et ce coucou dort désormais en Floride, loin de Caracas. Le fondement juridique de tout ça, Washington a découvert que ce Falcon avait été acheté aux États-Unis pour 13 millions de dollars par une société écran basée aux Caraïbes. Puis, d'après le procureur général américain, cet avion a été sorti de manière clandestine jusqu'au Venezuela pour servir de véhicule à Maduro et à son entourage. L'administration Biden y voit une violation du décret pris par Donald Trump en 2019 qui a radicalement restreint le commerce entre le Venezuela et des entités américaines.
Et tout ça alors que Nicolas Maduro n'a toujours pas produit la preuve de sa victoire à la présidentielle. Est-ce qu'il faut y voir un coup de pression de la part de la Maison Blanche?
Oui, c'est un geste de mauvaise humeur. En tout cas, c'est ce que rapporte le New York Times. Et le mandat d'arrêt émis par la justice vénézuélienne ne va rien arranger. Le candidat de l'opposition, qui affirme lui aussi avoir gagné le scrutin, est désormais recherché sur ordre d'un tribunal antiterroriste au Venezuela. Usurpation de fonctions, contrefaçon de documents publics, conspiration, sabotage de données électroniques et association de malfaiteurs. Voilà ce qui lui est reproché. 8 pays de la région, souligne le journal en ligne Tal Cual, ont déjà condamné ce mandat d'arrêt qu'ils assimilent à une mesure de persécution politique.
Vincent Souriau, on vous retrouve dans quelques minutes après notre dossier du jour.
RFI Midi.
Dossier consacré au commerce de cocaïne entre le Brésil et l'Afrique, il se développe de plus en plus. L'ONG Global Initiative en apporte de nouvelles preuves, mais l'Afrique, souvent, est uniquement un point de passage, une étape logistique avant de revendre la plupart de la drogue en Europe. Le sociologue Gabriel Feltran revient sur ce trafic et sur la réaction des autorités brésiliennes avec Achim Lipod.
Gabriel Feltran, bonjour.
Merci à vous pour l'invitation.
On apprend dans votre rapport que le Brésil s'est transformé au fil des années en une plateforme importante du commerce international de la cocaïne grâce au PCC, le Primeiro Comando da Capital, l'organisation criminelle la plus puissante au Brésil, fondée dans les prisons de Sao Paulo.
Il y a 10 ans, 2014, les PCC, cette organisation criminelle brésilienne, ils gagnent l'hégémonie du trafic de cocaïne dans le port de Santos, qui c'est le principal port de l'Atlantique Sud. Cette organisation, elle est capable de contrôler la logistique, l'intermédiation logistique du trafic de cocaïne qui vient surtout du Pérou et de la Bolivie.
Et le PCC s'appuie sur une stratégie très habile, en fait, qui le rend populaire, notamment dans les quartiers pauvres.
C'est un processus d'expansion dans les groupes les plus pauvres du pays, et avec une idée très claire de pacifier ces endroits et de dire, par exemple, comme il disait beaucoup pendant ma recherche des terrains, paix entre nous et guerre au système. On va pacifier ici pour augmenter en puissance notre capacité de faire face aux injustices, etc., etc. Il a tout un discours idéologique derrière. C'est vraiment une organisation qui fonctionne comme une franc-maçonnerie criminelle. Entraide entre les différents entrepreneurs criminels qui sont des petits entrepreneurs jusqu'aux énormes. Ils vont essayer de s'entraider et de vraiment réussir dans leur business illégal.
Et tout cela, Gabriel Feltran, grâce à une corruption à grande échelle.
Ce niveau de corruption est énorme. Pendant nos recherches de terrain, on a vu plusieurs cas et c'est vraiment considéré normal d'avoir la corruption parce que c'est beaucoup d'argent. Un kilo de cocaïne en Europe, au détail, ça veut dire 60 000 euros. On parle de trafic de centaines de tonnes qui sont saisies en Europe à chaque année et ça augmente à chaque année. Alors, on parle de beaucoup d'argent suffisamment important, conséquent, pour faire de la corruption dans toute la chaîne.
Alors, vous démontrez aussi qu'une grande partie de la cocaïne destinée à l'Europe transite par l'Afrique de l'Ouest pour des raisons logistiques.
Comme le PCC, il fait la logistique, il ne va pas faire la distribution dans la destination. Ça veut dire que si j'ai un contact en Afrique de l'Ouest, la personne, elle me paye X pour le kilo de cocaïne, je vais lui envoyer et c'est tout. Et après, c'est l'autre organisation criminelle, c'est deux autres réseaux qui vont faire la cocaïne arriver en Europe. Après quelques temps, je commence à avoir des connexions avec la 'Ndrangheta italienne ou la Mocro Mafia ou à Rotterdam, où je peux faire directement le passage de de la cocaïne en Europe, je vais le faire. Et aujourd'hui, avec le développement du marché, on voit tout, en fait. On voit que le bateau, il vient directement du Brésil ou de la Colombie ou d'Équateur. Mais on voit aussi des autres saisies qui se font avec des passages par l'Afrique de l'Ouest, parfois par l'Afrique du Sud, quand on parle de cocaïne qui va être exportée en Australie. Et c'est vraiment un marché global aujourd'hui.
Et donc la prochaine étape, c'est de renforcer les contacts en Europe pour ne plus devoir passer par les intermédiaires en Afrique de l'Ouest ?
Oui. Ça se fait déjà. C'est important de penser que le PCC, il n'est pas une organisation centralisée. C'est des entrepreneurs indépendants qui s'entraident. Il a toute une coordination pour faire, et là, c'est une coordination, disons, logistique qui va possibiliter à chaque opérateur de faire son business marché. Et va faciliter ça avec des contacts, avec des conditions de prêt, etc., etc. Mais cette organisation, elle va être très décentralisée au niveau du business. Alors si moi, personnellement, je suis un trafiquant et j'ai un contact, disons, au Nigeria, et mes contacts sont nigériens, je continue à exporter là-bas, jusqu'à Russie, jusqu'à la Chine.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce trafic de la cocaïne? Il faut commencer par où?
Une chose que c'est très important de penser, c'est que normalement, la violence, elle va être concentrée dans les débuts de la chaîne. Il y a quelques violences avec les petits producteurs au début de la chaîne. Mais comme il y a beaucoup d'argent et beaucoup de puissance économique dans l'intermédiation, il y a beaucoup moins de violence. Alors, ce qu'on pense, c'est que si on peut vraiment cibler les intermédiaires, les organisations qui font l'intermédiation de cette chaîne, ce serait une approche plus rentable. Normalement, surtout en Amérique latine, ce qu'on fait, c'est exactement l'opposé. Ça fait une répression aux acteurs plus faibles de la chaîne, qui sont au bout de la chaîne, les opérateurs les moins importants. On va produire beaucoup plus de violence avec la répression étatique et les organisations, elles vont être armées, etc., pour faire face à cette répression et pour protéger le marché. Et à la fin des comptes, même si la personne est arrêtée, le petit opérateur, ou même s'il s'est fait tuer, il va être remplacé les jours suivants. Ce qu'on dit, c'est que vraiment, on pourrait penser à ce type de commerce illégal, et qui est bien sûr un commerce criminel, mais qu'il doit être rapproché comme une activité économique. Et là, c'est surtout l'intermédiation, les cibles les plus importantes pour les politiques de répression.
Merci beaucoup, Gabriel Feltran.
Non, mais c'est à moi de vous remercier.
Le sociologue Gabriel Feltran au micro d'Achim Lipold. Et puisqu'on parle de drogue, Vincent, on vous retrouve pour lire les journaux du continent qui évoquent la disparition en Colombie de Rodolfo Hernandez, finaliste de la dernière présidentielle face à Gustavo Petro.
Un peu le Donald Trump de Colombie, anti-système, populiste, mania d'immobilier, vulgaire et démago, et grand fan des propositions choc comme celle-là pointée sur le site du magazine Vice il y a 2 ans. Il suffit de fournir aux toxicomanes leur drogue gratuitement, c'est ce qu'il disait, en pleine campagne présidentielle, que ce soit en intraveineuse, par aspiration ou sous forme de comprimé. L'État leur donne tout et il n'y a plus de demande, plus d'acheteurs parce qu'ils obtiennent tout gratos, et s'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de marché et donc plus de drogue, CQFD.
CQFD, mais ça n'a jamais été expérimenté, et Rodolfo Hernandez vient de s'éteindre d'un cancer du côlon. Il avait 79 ans. 9h24 à Port-au-Prince, et un satisfecit à lire dans la presse de la police de la capitale haïtienne. Elle se félicite, Vincent, des opérations menées par les forces de l'ordre dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince depuis la semaine dernière.
Bel Air, Solino, Fort National, les policiers haïtiens affirment avoir repris du terrain face aux groupes armés. Pas de bilan précis, mais plusieurs bandits tués, des armes à feu saisies et plusieurs interpellations, selon le porte-parole de la PNH hier en conférence de presse.
Depuis 27 août
Porte-parole qui parle d'une reprise timide de la circulation dans le secteur du Bas d'Elma, opération d'envergure menée depuis une semaine par la police grâce à la coopération de trois entités, la police nationale haïtienne donc, mais aussi l'armée et la MMAS, la mission multinationale d'appui à la sécurité. À noter et à lire dans le journal Le Nouvelliste l'extension de l'état d'urgence sécuritaire à l'ensemble du territoire haïtien. Cet état d'urgence s'était cantonné jusqu'ici à deux départements, l'Ouest et l'Artibonite. Eh bien, l'extension de l'état d'urgence permettra, selon les sources du Nouvelliste, de prendre des décisions qui concernent tout le pays au lieu de ces deux départements.
La revue de presse signée Vincent Souriau à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi.
Et on va retrouver maintenant nos confrères de La Première, Benoît Ferrand. On parle de coupures intempestives, d'eau de mauvaise qualité au robinet. C'est toujours très compliqué en Guadeloupe.
Oui, la mise en place du syndicat mixte de gestion et d'assainissement, la mise en œuvre de ce qu'il faut bien qualifier de travaux d'Hercule, n'ont pour l'instant pas suffi à assurer une desserte en eau correcte. Dernier épisode en date, le remplacement difficultueux de filtres à charbon actif. Comme le dénonce Jacques Davila, il est membre de la commission de surveillance du syndicat. Il a été joint par Peggy Robert.
Les personnels n'ont pas été remis en formation pour les montées en compétences des nouvelles normes qu'exige l'Europe. Donc il y a des normes qui ne sont pas appliquées. Le personnel ne sait pas bien faire. Ils n'ont pas la trésorerie qu'il faut et les fournisseurs ne veulent pas leur fournir parce que chaque filtre à charbon actif n'a pas une durée de vie en fonction d'un certain temps. C'est fonction de la qualité, de la nature de l'eau qu'ils traitent dans l'usine. Et comme les usines sont très mal gérées, très mal exploitées, et la maintenance est très mal assurée, avec des personnels disparates qui n'ont pas tous le même niveau de compétences, ils n'ont sûrement pas le suivi effectif, comme s'il se devrait, du changement. On subit l'impéritie, l'incurie, le manquement de compétences des gens.
La Martinique maintenant avec une actualité plus positive, disons une rentrée scolaire sans problème majeur et finalement plutôt apaisée. C'est le diagnostic livré ce matin sur les ondes de La Première par la rectrice d'Académie de la Martinique, Nathalie Mons. Elle répondait en direct aux questions de Grégory Gabour.
Dans le premier degré, on a vraiment un enseignant dans chaque classe, hein, puisque l'Académie de Martinique n'embauche aucun contractuel. Nous avons assez de personnel. L'Académie de Martinique est même par son taux d'encadrement numéro un en France de toutes les académies, puisqu'on a près de 9 enseignants pour 100 élèves. On est loin devant la Guadeloupe, encore plus loin devant la Réunion, d'autres territoires où il y a aussi des difficultés. Et dans le second degré, là aussi, tout le processus d'affectation s'est amélioré. Le contractuel sont embauchés beaucoup plus en amont. Et il y a aussi quelque chose certainement qui apaise la situation, c'est que maintenant le ministère est très attentif au retour des collègues martiniquais sur le territoire. On a plus d'une centaine de collègues enseignants qui rentrent dans l'académie. Donc je crois que ça aussi c'est quelque chose qui apaise. Nos stagiaires restent sur le territoire. Les stagiaires de l'année dernière se transforment en néo-titulaires. On n'a que 2 collègues qui n'ont pas obtenu de rester sur le territoire. Donc vous voyez, il y a une attention particulière du ministère.
La rectrice de l'Académie de la Martinique, bon après-midi. Anne, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. De la musique avant de se quitter avec une nouvelle version d'une chanson très connue. Voici Cocaine, revue par le producteur italien Regesta.
RFI à Saint-Domingue, 90.9 FM. Take a ride, cocaine. And if you wanna get down, down to the ground, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine.
Merci d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain, même heure, même endroit. Et tout de suite, Pascal Paradou pour De Vive Voix. When your day is done and you wanna run, cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie, cocaine. Cocaine.
ce mardi sur RFI.
Comment les Jeux paralympiques inspirent la recherche et réciproquement?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Comment scientifiques et paraathlètes ont-ils collaboré? Quels matériaux innovants? Quelles techniques issues des laboratoires ont tout changé sur le terrain sportif, mais pas seulement? Comment les Jeux inspirent la recherche sur le handicap?
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.